On est béni d'avoir une église à Montréal qui a une école du dimanche. Et les enfants sont enseignés, pas juste les enfants, les parents aussi, les grands, nous sont enseignés. Par qui? Par les professeurs, mais par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. C'est une richesse comme église qu'on a, on peut avoir ce temps-là, que ce soit avec les enfants ou avec les parents aussi. Mais ce matin, je vais passer assez rapidement par rapport à ce que, un peu d'histoire par rapport à la Bible, ce que nous avons. Qui a sa Bible? Les jeunes. Est-ce que vous avez votre... Un jeune qui s'élève ou qui lève sa Bible en main? Un jeune, là. Mettons... Non, un jeune, pas de 40 ans. Un jeune environ 12 ans et moins. OK? 12 et moins? 15 et moins? Ah, c'est bon, ça. Matteo, ta Bible, c'est bon. C'est bien. Ah, mais... Merci pour ta franchise. Merci. C'est bien, ça commence bien là. Mais le contenu, savez-vous, le contenu de la Bible démontre qu'elle est la parole de Dieu. On a plein de versets à l'intérieur de la Bible qu'elle démontre, c'est la vraie parole de Dieu. Mais nous avons aussi dans notre main la main de Dieu qui agit dans l'histoire de la Bible. La Bible a passé pendant... période de temps, des longues périodes de temps, il a survécu. On l'a, ce que la Bible, nous avons maintenant, c'est vraiment la parole de Dieu. Et c'est depuis quoi? Plus que 2000 ans que cette Bible existe, la parole de Dieu. Et puis, Dieu a gardé, a pu préserver la transmission intacte jusqu'aujourd'hui. Non seulement Dieu a inspiré les hommes pour qu'ils puissent l'écrire, cette parole-là, mais dans sa providence, il a veillé pour la préservation, pour sa conservation et pour sa transmission surtout, à travers tous les ans. Il y a environ 3500 ans, Dieu donna les deux tables, les témoignages. On a étudié l'Exode. D'ailleurs, on va continuer notre étude d'Exode à partir du dimanche prochain, je pense. Déjà, on recommence l'Exode. Puis, Dieu voulant, on finit notre étude d'Exode à peu près le mois de décembre. 3500 ans environ. Et on peut voir ça dans Exode 31. Je vais commencer avec les diapositives. Voilà. Exode 31, 18. Écrit du doigt de Dieu, dit. Cela signifie que l'Écriture existait déjà. Lorsque l'Éternel eut achevé, qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables des pierres écrites du doigt de Dieu. Écrites du doigt de Dieu. Donc, on peut dire que l'Écriture existait déjà depuis ce temps-là. Mais malheureusement, on s'est souvent objecté à que la transition littérale et exacte de la Bible était impossible. Du fait que les hommes, dans ces temps anciens, ne disposaient pas encore d'un système d'écriture. Donc, mais jusqu'environ au 20e siècle, au début du 20e siècle, de nombreux spécialistes soutenaient que les hommes, au temps d'Abraham, à peu près 2200 ans avant Jésus-Christ, ne savait pas encore écrire, il n'y a pas un système d'écriture. Mais, par contre, des fouilles archéologiques effectuées en Mésopotamie, et puis on parle environ des années 2000, 3000 même, 3000 années avant Jésus-Christ, dans les territoires qui appartiennent actuellement à la Syrie et l'Irak, on a trouvé des milliers de tablettes. Vous voyez les tablettes, là, ce n'est pas juste aujourd'hui, hein? Les tablettes existent depuis longtemps, mais tablettes taillées en pierre, là. Des tablettes qui datent de 2350 ans quand même. Ils ont été retrouvés dans des ruines, dans un palais qu'on appelle le palais du roi de Marie, donc en Mésopotamie. Donc on voit qu'il y avait déjà l'écriture. De certaines formes d'écriture existaient déjà. 3000 ans avant notre ère, comme les pictogrammes. Vous avez entendu parler des pictogrammes et les cunéiformes, c'est bizarre comme nom, le cunéiforme mésopotamienne, ou les hiéroglyphes égyptiens. On va voir quand même quelques photos. J'étais pas là, mais c'est des fouilles archéologiques qu'on a trouvées. Vous voyez les tables avec des pictogrammes, vous voyez, c'est quand même facile des fois à déchiffrer. Des fois, ils déchiffraient des objets ou des actions aussi avec des pictogrammes. Quand même, ça c'est quoi donc?
Un arbre.
Un arbre, donc facile. Donc, on pouvait écrire sur des tablettes, sur des tablettes, pas électroniques, là. Il n'y a pas de problème des batteries là-dedans. Là. C'est sûr que si ça tombait, tout cassait, puis on perdait tout. Mésopotamie, environ 3300 ans avant Jésus-Christ. On voit ici les tablettes du palais royal que j'ai parlé tantôt de Marie. 2350 avant Jésus-Christ, avec des, c'est plus des pictogrammes, c'est ce qu'on appelle les cunéiformes. Cunéiformes, c'est parce que cunéiforme, c'est en forme des coins. C'est pour ça qu'on dit cunéiforme. J'ai lu ça là, j'ai cherché un peu, fait des recherches. Et qui ne connaît pas ça, les stèles ou la plaque ornée des hiéroglyphes. Ça, c'est bon pour les latinos. Hiéroglyphes, c'est facile à prononcer ça. 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez qu'il y avait une forme d'écriture, même aux 3000 années avant Jésus-Christ. Sans aucun doute, Moïse était le plus ancien écrivain de la Bible. À peu près, Moïse a commencé à écrire à peu près les années 1500 avant Jésus-Christ. Et disposait l'écriture pour pouvoir transmettre ce que Dieu voulait qu'il transmette. Et Dieu avait décidé aussi de conserver par écrit l'histoire du salut. On peut appeler toute l'histoire de la Bible l'histoire du salut, qui contient non seulement les faits historiques, mais aussi les commandements. Et donc on peut voir aussi dans Exode ce que Dieu désirait que soit fait. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que souvenir s'en conserve, pour que le souvenir s'en conserve. Dieu voulait que ce souvenir reste pour toujours. Et il ne pouvait pas se faire juste avec le langage. Il devait se faire avec l'écriture pour que ça reste pendant longtemps et jusqu'à aujourd'hui même. Nous voyons l'intention de Dieu pour que le souvenir s'en conserve. Et nous allons maintenant regarder dans l'histoire comment Dieu a permis que ces écrits soient conservés avec quelques découvertes qui ont eu lieu pendant les derniers siècles. À peu près 150 années, les 150 années dernières, ont été découvertes des milliers d'anciens manuscrits en forme de papyrus, en forme de parchemin ou des codex. Vous avez entendu parler des codex de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Chaque manuscrit a une histoire, mais on va voir rapidement quelques codex ou quelques supports où on écrivait avant. Ça, c'est le papyrus. C'est un papier sur lequel il écrivait. Il était fait des fibres tirées de l'intérieur de la tige d'un roseau à côté du fleuve, à côté du Nil. Donc, le papyrus était très connu pour les Égyptiens. Donc, les gens écrivaient là. Ils pouvaient écrire. Malheureusement, le papyrus était trop fragile, OK? Puis ça déchirait très vite. Après, vous connaissez très bien le parchemin. Le parchemin, c'est à peu près la même chose. C'est des rouleaux, mais fait avec des peaux de mouton. Donc, c'était plus résistant, au temps même aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'on a trouvé dans plusieurs fouilles archéologiques. Les codex, en fait, les codex, là, c'est vraiment des feuilles, OK, des papyrus ou des parchemins qui sont empilés, OK, puis après, ils sont cousus, comme un livre. Voilà, un livre, c'est très ancien. Donc, les codex les plus connus, qu'on peut voir avec l'histoire, là, c'est le Codex d'Alexandrinus, qui se trouve au musée des British Museum en Angleterre. Le Codex date d'à peu près du 5e siècle de notre ère. 5e siècle, quand même, c'est vieux, là. Ce sont des écrits qui ont été trouvés, qui contiennent le texte biblique presque complet. Il y a le Codex Vaticanus aussi, qui se trouve à la bibliothèque du Vatican, à Rome, possède un super document du 4e siècle. Imaginez ça, du 4e siècle de la Bible. Il manque, par exemple, l'Épître aux Hébreux et les épîtres pastorales et l'Apocalypse. Mais on va parler des deux découvertes importantes. Ce ne sont pas toutes les découvertes qu'on a vues, mais c'est les principales. Il y a plusieurs manuscrits qui ont été trouvés, plusieurs. Et on peut voir... Un des principaux, c'est les codex Sinaiticus. Ça vous dit quelque chose, Sinaiticus? Sinaï, ils ont été trouvés dans le mont Sinaï, dans un monastère Sainte-Catherine, par un jeune homme qui s'appelait Tischendorf, bizarre comme nom, qui visita le monastère, puis il a trouvé dans... Vous savez où, là? Dans des poubelles. prêt à être jeté. Il a découvert les rouleaux, puis il a découvert 129 grands feuillets des parchemins qui contiennent des parties de la traduction grecque de l'Ancien Testament. Il a trouvé tout le Nouveau Testament, datant du 4e siècle, quand même. C'est quand même très, très ancien. Et puis, les codecs étaient complets du Nouveau Testament. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la découverte de la mer morte, qu'on appelle, ou Qumran. Qumran, je pense qu'il y a un N à la fin, pas un M. Il y en a qui l'écrivent avec un M, peut-être en espagnol. Mais Qumran, en 1947, il n'y a pas longtemps quand même, il dit, un jour de printemps, en 1947, un jeune bédouin, c'est ceux qui font l'élevage des moutons, OK? C'est des nomades, des Arabes, grimpa autour des pentes désertiques de Qumran sur la rive ouest de la mer Morte. Puis ils ont découvert des rouleaux dans des vases ou dans des jarres qu'on appelle, OK? Ils étaient emmaillotés soigneusement. Puis vous connaissez sûrement cette découverte-là. Le rouleau d'Ésaïe, c'est le plus connu. Le plus ancien manuscrit hébreu complet connu du livre, il date des 2e siècle avant Jésus-Christ même. Imaginez ça, le rouleau au complet, ça fait à peu près 7,3 mètres. C'était des bouts de parchemin cousu, mais ça faisait à peu près 7,3 mètres. Et tout au complet, le rouleau du prophète Ésaïe. Donc, on voit, qu'est-ce que vous voyez là? On voit que Dieu a gardé ces manuscrits pour que nous puissions avoir sa parole vraiment intacte. À peu près 850 manuscrits à Qumran ont été trouvés. Et puis, pas juste des rouleaux de la Bible, sinon des rouleaux apocryphes aussi. Vous avez entendu des livres apocryphes. Ils ont été trouvés aussi là-bas. Et aussi des textes sectaires, c'est-à-dire la vie de la communauté de Qumran, aussi de l'époque. Donc, on a beaucoup d'informations là-dedans. Et puis, Dieu a tout permis ça. Maintenant, les manuscrits découverts, si on peut faire le comptage, on compte environ 2000 manuscrits différents de l'Ancien Testament. Ça fait beaucoup de manuscrits. Ça fait beaucoup de, on peut dire, des tonnes de copies. Et puis, malheureusement, on n'a pas les originaux. Ne croyez pas si quelqu'un vous dit on a les originaux vraiment de la Bible et dans un musée. Ça n'existe pas. On a juste des copies. Puis c'est 2000 quand même. 2000, ils sont tous fiables. Et 2000 manuscrits différents de l'Ancien Testament. Et du Nouveau Testament, on a 5000 manuscrits environ qui ont été trouvés dans le grec du Nouveau Testament. Parmi toutes les autres compositions littéraires, vous connaissez l'Iliade et l'Odyssée, OK, d'Homère, qui peut être comparé avec la Bible. Seulement 643 manuscrits ont été trouvés. Imaginez ça, par rapport à la Bible, à peu près 7000. 643 manuscrits. Aussi, on voit d'autres, la guerre des Gaules, de Jules César, dans les années 50-58 avant Jésus-Christ. On a juste 142 livres, 142 copies de ça. Donc, on voit vraiment comment Dieu a agi, il a, avec soin, il a pu garder intact les manuscrits de la Bible. Et c'est pour ça qu'on peut l'avoir aujourd'hui, ici, dans nos mains, intact, le vrai texte. Je vous rappelle le verset, « L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans un livre, pour que le souvenir soit conservé, soit conservé. » J'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles, OK, dans Deutéronome 30, 11, 14. Pourquoi Dieu a fait tout ça? Pourquoi Dieu a permis que tous ces textes-là puissent rester pour que nous puissions les découvrir et nous puissions avoir cette Bible dans nos mains? Pourquoi? Je pense que c'est clair quand nous lisons Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 14, c'est juste avant que le peuple juif aille conquérir la terre avec Josué. C'est un des derniers chapitres du livre de Deutéronome. Puis on peut lire à partir du verset 11 à 14. Vous avez bien votre Bible dans Deutéronome 11 à 14? Oui. Donc, en effet, Ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer non plus pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'apportera et nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Cette parole, au contraire, qu'est-ce qu'il dit le verset? Est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Dieu s'est toujours arrangé pour que nous puissions avoir sa parole tout près de nous. Et maintenant, avec la technologie et tout, on peut avoir la parole de Dieu, même dans nos téléphones. OK? Et Dieu s'est arrangé toujours pour que son peuple puisse avoir la parole de Dieu tout près de nous. Pour qu'on puisse quoi? La mettre en pratique. C'est pour ça que je parlais tantôt de l'enseignement très important. Dans Acte 2, il dit, il persévérait dans quoi? Dans la prière, dans l'enseignement et dans la communion. L'Église persévérait dans l'enseignement, dans la prière, dans la communion. C'est important l'enseignement de la parole de Dieu. Sans son enseignement, on n'a pas où aller, on perd. On connaît pas Dieu, on apprend pas à connaître Dieu, sa volonté. Ce qu'il veut qu'on fasse, le chercher, grandir dans notre relation avec Dieu. Plusieurs fois, Dieu a permis que le peuple d'Israël puisse retrouver encore la parole de Dieu. Vous vous rappelez, il y a un roi qui a découvert à un moment donné des rouleaux parce que le peuple avait oublié complètement la loi de Dieu. Puis là, quand ils ont découvert ça, ce roi-là est allé l'enseigner partout. Et on voit aussi dans Néhémie, et quand le peuple pleure sur leur péché parce qu'ils découvrent la vérité. Ils découvrent qu'ils n'avaient pas obéi à la loi de Dieu. Et les conséquences qu'il y avait. Dieu s'arrange toujours pour qu'on puisse avoir la parole de Dieu tout près de nous. Et même Paul, l'apôtre Paul, il pouvait aussi vivre cette vérité-là dans son temps, parce qu'ils avaient à l'apporter la Torah qu'on appelle l'Ancien Testament. Et l'apôtre Paul aussi parle justement de ce verset. Les Israélites, en fait, avec la loi et les commandements, il fallait qu'ils obéissent à ces commandements pour obtenir grâce. C'est vrai, la loi était difficile à obéir, mais Dieu avait aussi dans la loi pourvu des sacrifices pour demander pardon au péché. Donc, Dieu faisait grâce aussi à son peuple. Okay? Donc, c'était difficile d'obéir à la loi de Dieu, mais le peuple se forçait pour l'obéir de tout cœur, okay? Pas juste extérieurement, de tout cœur. Et Dieu pouvait, les sacrifices, pouvait pardonner son peuple. Mais cet élément de grâce n'était que temporaire. Mais l'apôtre Paul voit encore plus loin l'accomplissement déployé dans l'Évangile par le sacrifice de Jésus-Christ et l'œuvre génératrice du Saint-Esprit. Et on peut lire ça, je vous invite aussi à ouvrir dans vos Bibles, dans Romains 10, du 6 à 11. Vous allez voir que c'est à peu près semblable ce que l'apôtre Paul dit, mais il l'applique à l'Évangile, à la bonne nouvelle de l'Évangile. Dans la loi, on voit que l'intention de Dieu, c'est que le peuple de Dieu pratique la loi. Dieu savait que ce peuple-là ne pouvait pas l'accomplir à 100%, mais il voulait qu'il s'efforce à l'appliquer. Et comme Moïse dit dans Lévitique, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. « Je suis l'Éternel » dit dans Lévitique 18, 5. Et donc, nous finissons ici dans Romains 10, 6 à 11. Vous l'avez avec vous? Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel? Ça vous fait penser un peu au verset de Deutéronome. C'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme? C'est faire remonter Christ entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et ce passage que vous connaissez très bien, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. L'apôtre Paul applique à la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est vrai, frères et sœurs, les enfants aussi, nous apprenons ici la Bible, les histoires. On peut connaître plus Dieu, sa volonté. Et j'imagine qu'à un moment donné de votre vie, vous avez fait une décision pour Dieu. Mais je sais que peut-être ici, entre nous, il y a des gens qui n'ont jamais fait cette décision pour Dieu. Et ils n'ont jamais goûté à la grâce de Dieu, comme Paul dit. Par le sacrifice de Jésus-Christ, je vous invite à vraiment réfléchir à ça. Dieu sauve et il veut qu'on soit sauvé. D'ailleurs, il est écrit aussi dans 1 Jean, je vous écris ces choses-là pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. La Bible a été écrite pour qu'on puisse savoir, avoir l'assurance d'avoir cette vie éternelle. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir cette vie éternelle, ne quittez pas sans nous voir, sans parler avec quelqu'un, avec un ancien, avec un frère et sœur qui est à côté de vous. C'est la bonne nouvelle. Dieu a permis que cette Bible-là, ces paroles-là, peut-être pas le papier, mais ce qu'il contient, puisse rester jusqu'aujourd'hui. Pour que ce message de la parole de Dieu, ce message de l'Évangile arrive jusqu'à nous et qu'on puisse comprendre, qu'on puisse être sauvé juste par la grâce de Dieu. Ça a toujours été le désir de Dieu. Cette histoire du salut pour que l'homme puisse être réconcilié avec Dieu. Amen.